Moi, je suis André de Mouchmaï, au Kassai oriental. J'ai repris totalement ce qui...
Moi, c'est Céline de Bombassi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cet échange citoyen dans Parole aux auditeurs. La Fédération des organisations de producteurs agricoles du Congo, FOPAC, plaide pour la mise en place du Fonds national de développement agricole FONADA pour permettre aux agriculteurs d'accéder aux crédits bancaires et subvenir à leurs activités. Ce plaidoyer a été effectué le 12 décembre dernier au cours de la journée porte ouverte organisée par les agriculteurs dans le territoire de Massiti au Nord Kivu. Cette structure estime que la conjoncture économique actuelle ne facilite pas la tâche aux agriculteurs. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-7130 pour vos interventions en direct. Les débats se déroulent également sur les réseaux sociaux. La page Facebook des Paroles aux auditeurs est sur notre compte Twitter. Paul Badenyama est à la mise en onde de ce magazine. Julie César Bongonda est au standard. Jérôme Yembo est à la réalisation et coordination. Et Pierrot et la mise vous le présente sous la supervision de Martin Sebujango, fidèle auditeur. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocafé.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
La journée porte ouverte organisée le 12 décembre dernier dans le territoire de Massissi par l'antenne provinciale de la Fédération des organisations des producteurs agricoles du Congo, FOPAC, plaide pour la mise en place du Fonds national de développement agricole pour permettre aux agriculteurs d'accéder au crédit bancaire et subvenir à leurs activités. Rappelons que lors de cette journée porte ouverte, les agriculteurs du territoire de Massissi avaient présenté au public les trois variétés de pommes de terre cultivées dans cette partie du pays. Comment commentez-vous ces plaidoyers de FOPAC? Rejoignez-nous au 081-890-7315. Jean de Dieu Milengo, professeur, vous êtes avec nous en ligne. Vous êtes spécialiste en environnement et aussi très ancré dans les questions d'actualité avec qui nous faisons les questions d'agriculture, avec qui nous faisons souvent des analyses sur les antennes de Radio Okapi. Alors, pourrions-nous comprendre un peu ces plaidoyers des FOPAC autour du Fonds national de développement agricole? Bonjour Jean de Dieu.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi. Et Pierrot, je vous remercie pour l'émission. Et je crois que le plaidoyer que les agriculteurs sont en train de faire et pour que le Fonds national de développement agricole soit mis en place, je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager, parce que le Fonds national de développement agricole a été prévu dans ce que nous appelons la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, c'est la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011. Je devais dire que la loi a été promulguée déjà depuis 2011, mais c'est tout à fait normal que les agriculteurs demandent au pouvoir public la mise en place de ce qu'on appelle le Fonds national de développement agricole.
Mmh. Oui, allez-y.
Il est tout à fait normal que pour qu'une activité se développe, l'activité doit être appuyée sur le plan financier. Donc, avec tout ce qu'il y a comme bouleversement du système économique mondial, tout ce qu'il y a comme changement climatique qui pèse lourdement sur la production agricole, il est tout à fait normal, comme c'était prévu déjà dans la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, et le Fonds national de développement agricole sont mis en place, c'est ça.
Mais est-ce que le fonds, c'est ça la question, ou aujourd'hui la question du développement du secteur de l'agriculture, c'est une question qui doit relever d'une étude très, très approfondie, mais aussi d'une politique générale bien définie. Quand on regarde aujourd'hui le développement de notre secteur agricole, il y a des interventions éparses. On peut dire ici, tantôt avec la FAO, ça peut être avec la CTB et d'autres organismes qui soutiennent, mais est-ce qu'aujourd'hui nous avons un soubassement politique bien définie et cohérent qui peut aujourd'hui arriver à développer le secteur agricole?
Merci Pierrot. Et quand vous dites qu'il faut, est-ce qu'il y a un soubassement pour nous permettre de nous développer sur le plan agricole, je peux dire oui, le soubassement existe. Et il y a, je l'ai déjà dit au début, la loi, c'est ça qui organise le secteur. Un secteur qui n'est pas réglementé ne peut pas aller de l'avant. Nous saluons les efforts qui ont été fournis pour mettre en place la loi portant politique fondamentale relative à ça. Ça, c'est très important. Mais la question fondamentale, c'est que est-ce que faut-il mettre en place une loi qui n'a jamais fourni un seul début d'application? Voilà, aujourd'hui, la visite revient sur un problème fondamental, le financement du secteur agricole. Ce financement avait été déjà prévu au niveau de la loi portant principes fondamentaux de l'agriculture. Donc, si la loi a été appliquée, aujourd'hui on ne parlerait pas de financement, on devrait parler de la recherche qui devrait être également soutenue par les pouvoirs publics. On devrait parler de la sensibilisation des pieds, tout ça a été prévu dans la loi. Mais comme je l'ai dit, Jérôme, nous mettons en place beaucoup de lois, mais nous ne fournissons pas suffisamment d'efforts pour que les lois soient appliquées sur les terrains. Donc le financement existe, mais il appartient aux pouvoirs publics, il appartient aux organisations de la société civile, la radio, les ONG, les agriculteurs, de fournir, d'appeler les pouvoirs publics à mettre en place tout ce qu'il y a comme loi, tout ce qu'il y a comme programme, tout ce qu'il y a comme politique mise en place par rapport au développement du secteur agricole.
Comme
vous voyez, Jérôme, et depuis de nombreux gouvernements ici dans ce pays, il dit voilà l'agriculture priorité des priorités, l'agriculture ceci, voilà la révolution de ceci, distribution des tracteurs. Donc, en fait, l'agriculture ne devait pas se développer parce que nous avons annoncé beaucoup de slogans, parce que nous avons fait beaucoup de bruit autour du secteur agricole, mais l'agriculture doit se développer si nous mettons en place des politiques cohérentes, nous mettons en place des programmes que nous devons finalement appliquer sur le terrain. On met beaucoup de programmes sur le terrain, mais l'application pose suffisamment de problèmes en République
démocratique. Voilà. Donc,
le passement existe, mais il faut de la volonté politique pour que tout
pour y arriver. On se rappelle d'ailleurs en 2014, la FOPAC, lors d'une réunion, avait plaidé pour la promulgation des mesures d'application de la loi. Rappelons que cette loi que vous avez évoquée, on n'a jamais adopté les mesures, promulguées les mesures d'application, et depuis 2011, jusqu'en 2016, quand même, c'est une grande inquiétude, mais c'est une question aussi de volonté politique. On va écouter Alain qui est ici à Kinshasa. Alain, vous avez suivi ce que notre invité a dit. La loi existe déjà depuis 2011. Il n'y a pas de mesure d'application de cette loi qui pourra permettre la mise en place de ce fonds qui peut faciliter aux agriculteurs de faire leur travail. Est-ce que le problème, comme on l'a dit, c'est un problème de volonté politique ou bien tous ces slogans qu'on a toujours dit que l'agriculture est une priorité restent sur papier, mais c'est là n'est pas considéré dans notre pays comme véritablement une priorité. Alain, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde, merveilleux. Moi je crois que votre dernière assertion soutient en partie ce que moi je voudrais dire par rapport à cette question. Vous allez vous rendre compte que aujourd'hui nous sommes en train de patauger dans la structure économique, tout simplement parce qu'on n'a pas intégré nos réalités socio-économiques ou sociologiques. Nous avons une vocation agricole, mais malheureusement, l'agriculture n'est pas placée à sa place de choix. C'est-à-dire, on devait faire de l'agriculture priorité des priorités, comme aiment le dire les politiciens, mais malheureusement, dans l'application, nous ne sentons pas cette réalité. Lorsqu'on parle de la politique sectorielle, c'est tout simplement la systématisation de la production, la distribution et la consommation de produits agricoles. C'est-à-dire on doit parler d'une part de la production, de la distribution, mais aussi de la consommation. Si on prend un terme de consommation, les Congolais sont dépendants de produits agricoles. Et lorsqu'on parle de produits agricoles, ici, nous les prenons dans le sens usuel. C'est-à-dire, nous mettons dans l'agriculture, l'élevage, pêche, et même la production, l'exploitation de certains produits non ligneux. Alors, si nous prenons dans cette consommation, on va se rendre compte que la production agricole nous donne pratiquement tout. Nous prenons en termes de vêtements, nous prenons en termes de draps, nous prenons en termes des chaussures, nous prenons en termes de la consommation au quotidien, nous consommons chaque jour les produits agricoles ou carrément leurs dérivés. Mais malheureusement, nous sommes dépendants tout simplement parce que nous n'arrivons pas à mettre en exergue ou en évidence l'avantage comparatif que nous avons. Avec nos potentialités, nous pouvons nourrir l'Afrique, mais malheureusement, nous sommes nourris par certains pays d'Afrique et même d'autres pays européens, tout simplement parce que nous n'arrivons pas à systématiser notre production. D'après nos indications, en ce qui concerne la malnutrition en République démocratique du Congo, il y a près de 45% de nos enfants qui souffriraient de retard de croissance chronique. Et il y a près de 24% qui souffriraient de croissance chronique sévère. Donc, quelque part, nous avons des problèmes en termes d'organisation du secteur agricole. Qu'est-ce que nous devons faire en principe? Nous devons savoir que le secteur agricole n'est que relève de la politique sectorielle. Mmh. Et ce n'est pas un tout, en fait. C'est un atout, mais ce n'est pas un tout. Qui doit se greffer à la politique économique globale. On doit donc commencer d'abord à avoir une politique économique globale avant d'envisager avoir le secteur agricole. Parce que généralement, lorsqu'on parle du secteur agricole, on voit premièrement les agronomes, les agriculteurs. Or, le secteur agricole, c'est un secteur complexe. Comme je l'ai dit, il y a trois éléments qui sous-tendent cette politique. On doit parler de la production, là ce sont les agronomes, mais on doit aussi tenir compte de la consommation et de la redistribution. Là, on parle de l'économie. Mais malheureusement, lorsqu'on conçoit des plans, on a plus tendance à mettre l'accent sur la production, mais malheureusement, la plupart de projets que nous mettons sur pied pour exécuter ce que nous avons fixé comme objectif ne tiennent pas compte de certaines réalités socio-économiques. Nous prenons le cas de Bukangalonzo.
Oui.
On a eu à mobiliser beaucoup de fonds dans un seul secteur, mais malheureusement, la production ne correspond pas aux besoins réels de la population. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une surcapitalisation de ces projets. Mais malheureusement, la production ne suit pas. Alors que si nous avons un plan de développement, si nous avons une politique économique globale qui intègre la nécessité de la politique sectorielle et la politique agricole, eh bien, on va booster notre économie. Ça va permettre à ce que nous ayons plus d'emplois créés. Ça va permettre à ce que nous résolvions même le problème de la fluctuation monétaire. Ça va permettre à ce que nous serons de plus en plus souverains sur le plan économique.
Merci,
malheureusement, on n'en tient pas compte.
Merci beaucoup,
Alain,
parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont...
Le problème, c'est uniquement en termes de mobilisation. Non, on doit, de fond, on doit aussi planifier, on doit avoir un plan stratégique sur l'agriculture,
voilà. Merci beaucoup, Alain Bologio, merci beaucoup. Vous avez dit, le problème ne doit pas être considéré seulement dans une seule facette de mobilisation de fonds. S'il n'y a pas un plan stratégique, vous avez expliqué par là, qui prenne en compte la production, la distribution et la consommation. Merci beaucoup. Sylvain, vous êtes à Kinshasa. Merci d'être avec nous, Sylvain. Bonjour.
Oui, bonjour, Radio Capital.
On vous écoute, Sylvain.
Oui, meilleur d'abord. Alors, je crois, moi, sur mon commentaire, j'ai dit ceci. Le problème aujourd'hui n'est pas de créer un fonds national de développement agricole. Mais il faut simplement avoir une bonne politique efficace qui répond aux exigences de la structure mise en place. Vous savez, monsieur le journaliste, aujourd'hui, j'avais donné même l'exemple du secteur routier. Nous avons l'OVD, nous avons le FONER, nous avons la CGT, nous avons l'Office des routes. Mais vous voyez toute cette multiplicité des services ou des administrations. À la tête, il y a un personnel qui travaille, des directeurs généraux, tout ça. C'est de l'argent que le gouvernement et l'État congolais dépensent. Mais voyons aujourd'hui le résultat accordé ou bien donné par ces services. Il n'y a pas longtemps, si j'ai entendu, on était à la plénière du Sénat, on a parlé de la dégradation de l'état des routes. Mais nous avons des structures qui fonctionnent. Mais ces structures-là, qu'est-ce qu'elles font? Sous d'autres, vous savez que si on décide de mettre en place une structure, ça veut dire qu'on a étudié quels seront les objectifs à atteindre, quels seront les moyens à mettre en place. Et on devra avoir le résultat. Mais chez nous, aujourd'hui, on pourrait mettre 1000 structures en place. Mais les derniers citoyens au fond dans le village là ne verra pas le résultat de ces structures. Alors moi je pense à mon avis qu'il n'est pas important de créer de nouvelles structures. Parce qu'au ministère de l'Agriculture, il y a déjà des services qui existent. Il faut voir s'il faut réformer ces structures qui existent déjà, ou bien s'il faut réformer en général la politique qu'on doit mettre en place au lieu de commencer à créer d'autres administrations. Qui fera dépenser de l'argent à l'État aussi en temps qu'on aura
mais
pas
mais
des...
Sylvain, le fonds national...
Voilà un paiement ouais. Petit contribution, voilà. Je pense que c'est à ce niveau-là.
Oui, Sylvain, mais le fonds, c'est comme... c'est une structure qui doit permettre à ces collègues de la mobilisation de fonds, parce que les agriculteurs, ils ont besoin d'argent. Nombreux aujourd'hui se débrouillent avec les moyens de bord. S'il y avait la possibilité de financer, de leur permettre d'accéder au crédit, ça peut permettre quand même de développer cette agriculture. Alors, le fonds, c'est pas eu dans le sens d'une structure de plus, mais c'est, comme on le dit, c'est un fonds qui va permettre à ce que les agriculteurs soient financés. Ne faudrait-il pas leur permettre quand même d'accéder aux fonds nécessaires pour réaliser leurs activités, Sylvain?
Mais je dis, par exemple, de former aussi dans les secteurs routiers. C'est un fonds, c'est pas une structure qui est con, c'est un fonds. On cherche à mobiliser les fonds pour voir comment réhabiliter des routes. Et que réellement, les fondeurs font quelque chose de très important. Où est la dégradation de routes? Et si nous tranquilles, certains, nous pouvions chanter, nous avons des bonnes routes. Les routes ne sont que surlimitées sur la Goumé là-bas. Mais aller dans d'autres communes, par exemple, dans les Kissés ou dans les Kimbansé, le monde en fout ailleurs. Là, les gens souffrent, il n'y a pas de route. Mais le fondeur, il existe. Je crois aussi que ça sera le même cas pour le Fonds national pour le domaine de l'agriculture. Ça sera la même chose. Il faut repenser la façon de fonctionner des institutions de l'État. Il faut réformer les institutions. Il ne faut pas en créer d'autres. Parce que même les lois, elles existent. Mais est-ce que ces lois-là sont vraiment
appliquées?
Nous avons dit même au FPI actuellement là, j'ai entendu le nouveau comité en train de se plaindre. Il y a beaucoup de dettes, des choix comme ça. C'est aussi une structure qui existait pour mobiliser les fonds, pour accorder des facilités aux industriels locaux. Mais ce fonds aujourd'hui n'existe pas. Ça sera aussi, ça pouvait être le même cas. Donc moi, à mon avis, il faut repenser, il faut réformer le politique existant déjà pour lui en créer des nouvelles.
Voilà, merci.
Et qui me vont faire le
Merci beaucoup, Sylvain. Vous êtes revenu sur ce que nous avons évoqué hier. Hein, l'émission d'hier était consacrée au secteur routier. Un estimant qu'il y a beaucoup de structures. On multiplie les structures, mais il n'y a pas de résultats. Si on met en place ces fonds, ce n'est pas ça qui va résoudre la question du développement du secteur agricole pour les agriculteurs. Mais le problème aujourd'hui, c'est la réforme totale de la politique agricole du pays. C'est de cette façon qu'on peut arriver à trouver des solutions. Ingénieur Valérie, vous êtes à Kindu, merci d'être avec nous. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est le problème de fond, le problème de la politique qu'il faut réformer, le problème de la volonté politique? Alors, à quel niveau aujourd'hui on peut permettre aux agriculteurs congolais de pouvoir se développer, ingénieur Valérie? Bonjour et bienvenue.
Bonjour. Je salue également mon ami le professeur Milengwe avec qui vous êtes là-bas. Je lui présente mes vœux les meilleurs, même si on se verra après. Je salue aussi tous les auditeurs de la radio Okapi. Bon, en fait, c'est pas mal d'avoir une loi qui encadre un peu tous ces problèmes de l'agriculture. C'est comme ce que mes prédécesseurs ont dit, qu'il faudrait au moins une politique générale. D'abord, on doit inventorier. Imaginez-vous, j'ai suivi dernièrement la télé. En Afrique de l'Ouest, je ne sais pas si c'était le Nigeria ou quel pays, qui a réussi à faire la promotion de son thé en tenant compte que l'exportation lui apporte beaucoup d'argent. Nous avions autrefois des problèmes de l'exportation de café arabica. Moi, j'étais dans une banque, mais il arrivait des moments où, rien qu'avec les recettes d'exportation du café de la succursale de Butembo et de la succursale de Beni, ça pouvait payer toute la banque. On a beaucoup dégradé. Aujourd'hui, par exemple, vous avez suivi à Kinshasa, c'est bien la presse qui a diffusé, comment on avait dit qu'il y aura baisse des prix de 18% de tel produit. Mais c'est encore un fiasco. Quels sont ces produits sur lesquels on devrait opérer la baisse? Mais ce sont les produits que nous pouvons avoir ici localement.
Mm-hmm.
Parlez du riz. Est-ce que nous devons importer du riz? Je ne sais pas quelle qualité du riz vous mangez là-bas à Kinshasa, mais nous avons du bon riz ici au Maniema. Figurez-vous que quand le Maniema n'avait pas de tracteur, le Maniema était un ingrédient agricole dont les produits étaient vendus même en Bougimaï. Aujourd'hui, s'il y a des tracteurs, c'est peut-être un peu partout dans les maisons de la population, disons des habitants. Ce n'est pas normal. Et ce qui est fait pour Maniema, l'est aussi pour toutes les provinces. Alors, il faut qu'on ait d'abord une politique, ça c'est vrai, je vais y revenir. Et puis, même quand on parle de crédit, il suffit qu'on commence avec cette loi. Qui viendront bénéficier des crédits? Mais ça sera toujours les militaires du pouvoir, de la même manière qu'ils l'ont fait avec les SPI. Aujourd'hui, on peut prendre de l'argent, on donne à quelqu'un, mais il faut aussi lui apprendre comment gérer un crédit. Il faut des structures d'encadrement. Comment gérer un crédit, parce que quand on bénéficie d'un crédit et que l'on ne les gère pas bien, ça va créer des problèmes. En Mali, s'il y a des guerres, si quelqu'un vient, il bénéficie d'un crédit auprès d'une structure ad hoc, et qu'après il y a guerre, il abandonne les champs, il va fuir, c'est pas moi, il est bien où, parce qu'on ne résout rien concernant la guerre, ce sont que les déplacements. On chasse l'ennemi ici, où la population se déplace, après on va encore les attaquer là-bas, ils se déplacent d'un coin à un autre. Là, ça ne va pas. Il faudrait d'abord réinventorier quelles sont les cultures qui sont exploitables à tel coin, et comment encadrer. On prend une politique générale dans le cadre d'une politique économique, comme l'a dit Alain Bolotois.
Mm-hmm.
Parce qu'une politique économique, c'est un ensemble de mesures délibérées que l'on prend en vue de la régulation d'une activité économique. Lorsque maintenant cette politique est prise, disons, par rapport aux objectifs, on peut parler d'une politique conjoncturelle ou une politique de développement, voire structurelle. Les objectifs sont à court terme ou à long terme. Mais ces problèmes de l'agriculture relèvent des politiques structurelles ou de développement. Ce n'est pas une politique à prendre pour deux ou trois mois, non.
D'une manière globale. Et vous avez raison, ingénieur Valérie, il faudrait d'abord spécifier les domaines d'intervention, mais vous avez aussi peur que le fait qu'on puisse avoir le fonds, ça ne peut pas résoudre le problème. Quand on voit ce qui s'est passé avec les tracteurs qui ont été distribués, la plupart ont été pris par des responsables politiques, on n'a pas vu de résultats. En partant du FPI, comme évoqué tout à l'heure Sylvain, le fonds même pour le développement de l'agriculture risque encore d'être distribué au auprès des responsables peut-être politiques et ceux qui n'ont même pas d'activité agricole. Voilà un peu toutes ces questions qu'il faudrait penser, et c'est pourquoi Sylvain a évoqué la réforme de la politique agricole dans notre pays. Merci beaucoup, ingénieur Valérie Omar, vous êtes ici à Kinshasa. Entre toutes ces questions de l'économie, de réforme de la politique agricole, de lois qui sont déjà là et des volontés politiques, alors comment on peut arriver aujourd'hui, Omar, à aider les agriculteurs congolais à pouvoir s'épanouir et surtout faire plus que ce qu'ils font maintenant.
Pierrot, du verbe que vous m'accordez, comme je l'ai fait avant-hier, je vous réitère mes voeux à vous tous et à tous les auditeurs.
Merci.
Je salue, n'est-ce pas, les plaidoyers de, j'ai oublié le nom de la structure.
Et c'est la FOPAC.
À la FOPAC, c'est un plaidoyer important. À mon avis, il se tient d'un triple souci qu'on a un peu d'années négligé. C'est que d'ailleurs, j'ai interpellé l'exécutif, comme l'a dit un des auditeurs, qui doit respecter la loi. La loi a déjà été votée depuis très longtemps. Ce n'est pas une innovation. Elle existe, je crois, depuis 2011. Et cette création du fonds est une exigence légale. Mais jusqu'à ce jour, on ne sait pas l'exécuter. Deuxième souci de cette idée, je pense qu'il est temps qu'on puisse rappeler à tous les Congolais que le seul secteur salvateur en ces jours demeure l'agriculture qui est pourtant négligée. Autre chose, c'est aussi une façon de dénoncer l'indifférence de gouvernants vis-à-vis de ce secteur qu'on a toujours décrié. Il y a une dame américaine qui a écrit, elle s'appelle Marina Tawen. Le Congolais oublie ce qu'ils sont. Donc le Congolais souffre du congolisme. Mais je pense, j'ai pour répondre à votre question, très cher Pio, tout porte à croire en ces jours que l'agriculture demeure notre seul secteur qui peut nous sauver, car on démontre à l'économie qu'il n'y a pas de développement ou d'émergence sans production interne. Et les secteurs productifs à ces jours qui peuvent vraiment nous éclore sur le plan économique demeurent également la production agricole. Mais comme les autres, je crois Alain l'a dit, nous pensons en ces jours que la création du fonds agricole pour obtenir des crédits, bien que ce soit une solution efficace, mais n'est pas la seule solution, car l'agriculture est un tout. Aujourd'hui, on parle du ministère de la pêche et élevage, du ministère de l'agriculture et que sais-je. On pense que ces différents ministères tels qu'ils compartimentés peuvent apporter un plus. Mais je pense, très cher Pierrot, tout résume sur une bonne politique agricole. C'est vrai qu'on peut créer des fonds pour soutenir ceux qui doivent faire l'agriculture, mais il y a d'autres choses, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être mises en œuvre pour qu'on puisse, n'est-ce pas, booster cette activité. Premièrement, il faut qu'on fasse les états généraux de l'agriculture pour qu'on sache qu'est-ce qui fait qu'en ces jours, il y a des agriculteurs, il y a des choses qui sont produites, mais on n'arrive pas à éclore. À part la création du fonds, je pense très cher Pierrot et la Mégie, il faudra aussi une formation. Aujourd'hui, ce qui démontre que nous n'arrivons plus à exporter, il n'y a pas seulement le manque du transport, il y a aussi la qualité de ce que nous produisons. L'agriculture est une science, elle est étudiée, elle est une technique. Il faut qu'on arrive aussi à former les agriculteurs. Qu'est-ce que nous produisons et pourquoi les pays étrangers n'arrivent pas à acheter? On a eu l'affaire banane dollar, les économistes le savent, il n'y a pas mis le cause aussi. Autre chose très cher Pierrot, il y a un problème aussi de la sensibilisation. On a comme l'impression dans notre pays que l'agriculture est une chose de pauvres, des mamans maraîchères, de ceux qui l'intéressent. Or, l'agriculture doit être avant tout une culture. Donc, tout se résume à croire que, au niveau des écoles, au niveau des églises, au niveau de chaque milieu éducatif, on doit introduire au Congo la culture agricole. Au niveau des gouvernants, la loi ne manque pas. Il y a plusieurs textes, il y a plusieurs programmes, il y a plusieurs structures agricoles. Tout se résume à la bonne volonté. Un minimum de bonne volonté suffit. Aujourd'hui, il est démontré que c'est la Chine qui est une puissance économique. Tout a commencé avec le plan Tianjin, je crois, vers l'année 83, lorsque Mao Zedong a demandé à tous les Chinois, même au niveau des écoles, des considérer l'agriculture comme un poumon. Et au niveau du gouvernement, les politiques ont été décidées, au niveau de la population, cela a été fait. Donc tout se résume au niveau de ceux qui nous gèrent, de la, un minimum de volonté politique, et au niveau de ceux qui sont censés gérer pêche, élevage ou autre, des structures appropriées avec des experts, et au niveau des gouvernants encore, il faut la création de ces fonds pour que nous puissions, n'est-ce pas, faire cela. Donc c'est un secteur, comme je l'ai dit, mais une bonne, politique, une bonne volonté politique, un souci, il y a une sensibilisation de la population suffisent pour booster ce secteur de l'agriculture en RDC.
Merci beaucoup Omar, quand vous avez évoqué qu'il faut, faudrait-il organiser aujourd'hui les états généraux de l'agriculture, mais la question de la culture agricole et les pratiques agricoles, on a vu dans son temps, il y a eu des gouverneurs de province qui ont pu investir dans les secteurs de l'agriculture, on l'avait vu dans le Katanga, on l'avait vu dans les temps au Kasaï oriental, où chaque député provincial, chaque ministre provincial devait avoir un champ, ce qui avait beaucoup boosté aussi la production agricole. C'est une initiative du gouverneur Ngoï Kassangi, on l'avait vu aussi avec l'ancien gouverneur Moïse Katumbi dans le Katanga. Alors vous avez estimé qu'il faut la volonté politique, le développement de la culture agricole dans le pays et l'ensemble de toutes ces mesures ainsi que la mise en application de l'OAM, ça peut amener à booster le secteur de l'agriculture qui est le poumon pour la RDC. Martin, vous gardez la ligne, vous êtes à Riouara. Plusieurs messages ont été déposés sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Avelin Michel Capita de Bounia et dit ceci, on forme quand même des agronomes, mais ils ne sont pas employés, il n'y a pas d'emploi. Quelques-uns restent en ville, alors que le problème sérieux se pose en milieu rural où on ne voit pas les agronomes encadrer les agriculteurs. L'État devrait aussi penser à ça. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Jean-Dédié Milingou, vous êtes notre invité dans ces magazines. Vous avez suivi beaucoup de points de vue, des pistes de solutions proposées par l'ensemble de ces premiers groupes d'intervenants. Quel est votre commentaire par rapport à ce qui a été dit?
Merci Pierrot. Je salue d'abord tous les intervenants pour leurs propositions très constructives. Et je dois commencer d'abord à solliciter notre ami Valérie qui a appelé à partir de
Kindu,
et qui parle des importations par exemple des riz qui n'est pas une chose acceptable pour la République démocratique. Donc, pour autant, s'il y a des régions ici dans ce pays où les gens produisent les riz et les riz produits au niveau local ne peuvent pas atteindre ces consommations. Et ça c'est très important. Je voudrais aussi préciser une chose, mon ami Pierrot. La République démocratique du Congo dépense près de 2 milliards de dollars pour des importations de denrées alimentaires. Mais alors que nous sommes ici capables de produire les riz, nous sommes capables aujourd'hui de produire la viande de porc, nous sommes capables de produire du poulet. La difficulté, c'est quoi par rapport à tout ça? Le problème, c'est qu'au niveau de ce que tout le monde appelle politique agricole, c'est la vision qu'on se fait du développement de l'agriculture dans les temps et dans l'espace. C'est que notre vision pose un peu problème par rapport à notre propre réalité. Parce que pour beaucoup d'intellectuels du monde politique, pour certains intellectuels du monde académique, même des organisations de la société civile, pensent que pour que l'agriculture soit boostée en République démocratique du Congo, il nous faut l'intensification du système de production, il nous faut la création de parcs agro-industriels. Mais il est important que les gens sachent que l'industrie, par exemple, du cacao qui fonctionne à travers le monde est alimentée par la matière première qui provient de l'agriculture familiale. Parce que beaucoup de gens pensent que non, il faut abandonner les agriculteurs, il faut créer des parcs agro-industriels, comme ça l'agriculture va se développer. Non, les riz qui est consommé au Japon, les riz que les Vietnamiens nous envoient ici, ça ne vient pas des grandes exploitations, ça vient de l'exploitation paysanne. Il nous suffit d'encadrer, de sensibiliser, de former les agriculteurs, nous aurons des produits agricoles qui peuvent être consommés directement et nous pouvons avoir des produits qui peuvent servir comme matière première pour l'industriel. Donc, il y a quand même un problème de vision. Ça, c'est très important. Et c'est ça le problème de la politique agricole. Parce que de la politique agricole, et mon ami Pierrot, découlent les lois, les programmes et les projets. Si vous n'avez pas une bonne vision dans le temps et dans l'espace de ce que sera l'agriculture dans votre pays, eh bien vous allez mettre en place de mauvaises lois, vous allez mettre en place de mauvais programmes, vous allez mettre en place de mauvais projets. Et le résultat, c'est qu'il n'y a rien sur le terrain. Il y a notre ami Sylvain qui a posé un problème. Il dit non, voilà, et le Fonds national de développement agricole, c'est pas ça le problème. Et il y a aussi notre ami Valérie qui a ajouté, ça c'est très bien, qui dit voilà, on peut mettre en place le Fonds national de développement agricole, mais l'argent va-t-il servir réellement au développement du secteur agricole? Est-ce qu'on ne va pas assister à ce que nous avions vu au niveau du fonds de promotion de l'industrie qu'on a fait l'expérience? On ne va pas assister à ce que nous avions vu à ce qui concerne la distribution des terres où les hommes politiques, qui ne sont pas en réalité les agriculteurs, qui doivent s'occuper de ce que sera le pays demain et le lendemain, ils ne doivent pas se transformer, mais c'est ce qu'on bénéficie des facteurs. Alors, ce n'est pas avec la crainte, ce n'est pas avec la peur que nous allons développer le pays. Alors, que faut-il faire pour que si aujourd'hui on met en place un fonds de développement agricole, que l'argent ne tombe plus entre les mains des hommes politiques, qui sont d'ailleurs bien payés.
Oui.
Ils sont d'ailleurs bien payés, ils peuvent parler en comprenant de l'argent au niveau du fonds ou ce qu'on a vu au niveau des pays. Comment cet argent peut arriver entre les mains des agriculteurs? La solution, elle est simple. C'est la mise en place d'un état de droit. Il faut que la justice fonctionne normalement. C'est pourquoi on disait, les gens disent, bon, vous parlez de l'agriculture, vous parlez de la justice. Et on ne peut pas développer un secteur, on ne peut pas développer la justice tant que la justice, tant que l'état de droit n'existe pas. Dans un pays où il y a l'impunité, le trafic d'influence, voilà, on met en place un fonds et l'argent se trouve entre les mains des hommes politiques. On n'arrête personne, il n'y a rien, donc le secteur ne pouvait pas. Donc, la solution, c'est que nous devons fournir beaucoup de forces pour que nous ayons un état de droit où les lois sont au-dessus de tous, où la justice fonctionne normalement. L'argent, c'est pour le développement, il doit être affecté pour le développement. Et les contrevenants doivent se retrouver devant la loi, devant la justice. Donc,
alors,
c'est ça qui se passe. C'est pas la paix qui va faire en sorte que le pays.
Oui. Mais Jean de Dieu, quand vous avez évoqué l'agriculture familiale, le cas du Japon, le cas de la Thaïlande, vous avez les riz que nous consommons, rappelons quand même que l'ONU avait décrété l'année 2014, c'était une année dédiée à l'agriculture familiale qui est quand même, qui a 40% de la population aujourd'hui en RDC vit de cette agriculture, 70% de production alimentaire dans notre pays, c'est de l'agriculture familiale. Mais à ce niveau-là, tout est resté au niveau des célébrations. Nous avons eu plusieurs émissions. Mais aujourd'hui, concrètement, comment on peut accompagner cette agriculture familiale dans notre pays?
Merci. Et pour que le pouvoir public, pour que nous tous nous puissions accompagner le développement de l'agriculture familiale, qui est le poumon économique de notre pays, il n'y a qu'une seule solution, c'est la mise en place d'une véritable politique agricole avec des objectifs précis. Quand nous parlons, je l'ai déjà dit, quand nous parlons de la politique agricole, nous voulons parler de tout ce qui doit être mis en place comme loi et tout ce qui doit être mis en place comme programme, comme projet. La loi qui a été mise en place, la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, cette loi ne privilégie pas seulement l'agriculture industrielle, cette loi privilégie également protège l'agriculture familiale. Dans le cadre des programmes qui sont mis en place, il y a très peu de programmes avec des résultats clairs par rapport au développement de l'agriculture dans notre pays. Aujourd'hui, notre ami Valérie a parlé des riz qui étaient produits à l'époque au niveau. Mais pourquoi les riz? C'est que les riz ne manquent pas. Mais il y a un problème d'évacuation des produits au niveau local. Les gens produisent, mais les routes sont dans un état extrêmement effectif. Donc, c'est un ensemble de beaucoup d'histoires que l'État doit mettre en place.
Merci.
Il faut réhabiliter les routes agricoles, il faut former les agriculteurs, il faut mettre les agriculteurs en coopérative, il faut appuyer les agriculteurs parce que vous l'avez dit, Pierrot. Le matériel que les gens utilisent pour réaliser est très rudimentaire. Ils ne peuvent pas réaliser plus de 2 hectares. Mais si l'État leur donne les instruments nécessaires, le matériel nécessaire pour réaliser la production, nous aurons des produits qui peuvent être consommés directement et l'agro-industrie pouvait se développer. Je voudrais terminer à notre ami qui a dit également que beaucoup de gens pensent que l'agriculture est au niveau de la production. Ça, c'est très important. Si nous voulons développer l'agriculture dans notre pays, nous n'allons pas toujours continuer à croire que seule l'augmentation de la production agricole nous intéresse. Une augmentation de la production agricole, mon ami Pierrot, qui n'est pas accompagnée d'un programme lié à la transformation des produits, c'est une politique qui a échoué. Donc, Les efforts doivent être fournis dans beaucoup de sens pour que l'agriculture joue un
rôle. Merci. Voilà, on va écouter Martin qui est à Riwara, Apollinaire qui est à Boma. D'ailleurs, Omar qui a évoqué la production, il a mis aussi l'accent sur la distribution, il a vu sur la consommation, comment on peut transformer ces produits, comment on peut les distribuer. Toutes ces questions devaient être prises d'une manière globale. C'est pourquoi lui-même a évoqué l'Organisation des États généraux de l'agriculture. Martin, merci d'être avec nous. Vous êtes à Riwara. Bonjour Martin. Martin, vous êtes avec nous, bonjour. Martin n'est pas disponible. Apollinaire, vous êtes à Boma, dans la province du Congo central. Bonjour Apollinaire.
Bonjour, Monsieur Gilles.
On vous écoute, Apollinaire.
Oui, Monsieur Gilles, j'ai suivi la majorité des intervenants qui m'ont procédé. Écoutez, la question de l'agriculture, c'est une question fondamentale pour même l'avenir de la République démocratique du Congo. Et pour l'information, quelques chiffres qui peuvent nous donner un peu la pertinence de la question. Vous savez, selon les organisations internationales, il aura plus de 18 millions d'habitants d'ici 2030. Et nous, à Boma ici, notre population a connu une croissance de 102,76%. C'est pour dire que toute cette population doit être nourrie. Mais alors, vous allez constater que le gouvernement n'a pas encore mis en place une politique pouvant permettre d'assurer la souveraineté alimentaire ou l'alimentation de toutes ces personnes-là. Et ce qui compte, comme vous avez suivi au mois d'octobre, le gouvernement de Tatampogno avait prévu dans le cadre de l'ère Troïka 45 millions de dollars américains pour importer le bien de consommation afin de stabiliser les prix durant le fait. Donc ce qui traduit l'absence et même les soucis de développer le secteur agricole dans notre pays. Ça, c'est une question fondamentale. Il faut que le gouvernement réfléchisse davantage sur cette question et pourquoi pas associer les organisations de la société civile pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que la pauvreté monétaire qui sévit au niveau des milliers rurales, je suis un agent de développement, je sais ce que je dis, qui sévit en milliers rurales, dérange. Mais aussi, les accords que nous signons avec les communautés internationales, par exemple dans le cadre de SADC, où nos frontières sont restées ouvertes et privilégiant les biens de consommation venant des productions du pays vert, dérange la question de rémunération des produits agricoles dans nos marchés ici. Je prends un exemple. Avec ceux qui viennent des communautés de SADC, nos producteurs ne savent plus vendre. Ça, c'est de un. Et s'ils vendent, ils vendent avec un produit, avec un prix bas. Donc, ils se posent une question d'un prix rémunérateur pour le producteur. Ça, c'est une question fondamentale. Donc, il faut avoir une politique économique qui pense à l'augmentation de la consommation au niveau du pays, afin que les Congolais soient capables d'acheter aussi chez leurs producteurs. De deux, il se pose un problème de circuit économique. Vous savez, avec l'approche de l'économie du marché, où l'État s'est plus désengagé, et le désengagement de l'État est plus perceptible au niveau du milieu rural, et dans ce milieu où il y a beaucoup de producteurs. Et comme conséquence, l'absence de l'intervention de l'État dérange même le circuit économique partant de la production, distribution et consommation. Et ce qui fait que tout ce qui est produit en milieu rural n'arrive pas encore. N'arrive pas là où ça doit être consommé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route au niveau des dessertes agricoles. Donc moi, je crois qu'avant de penser à un fonds agricole, c'est ce qui a été prévu par la loi qui organise l'agriculture en République démocratique du Congo. C'est bon. Mais il faut faire accompagner ça, comme mon prédécesseur venait de dire.
Oui.
Il faut qu'il y ait aussi une politique qui accompagne la production agricole. C'est-à-dire installer des agropoles aussi. C'est-à-dire aussi mettre en interaction les petites et moyennes entreprises qui sont déjà habituées à faire le commerce, qui de temps en temps peuvent aussi accéder à un crédit, pour qu'ils puissent créer des débouchés pour le producteur agricole là où ils sont. Et à ce moment, tout le monde va être entraîné. Ils peuvent aussi se rendre en milieu rural, ils peuvent aussi se rendre en milieu urbain. Et de cette façon-là qu'on va monétiser la production agricole.
Merci
donc,
beaucoup.
Le produit agricole n'est
merci
pas
beaucoup, Apollinaire. Voilà. Merci beaucoup, Apollinaire. Et d'ailleurs, quand vous avez évoqué cette question de l'importation, quand le gouvernement décide de l'importation à pour 45 millions de dollars des biens des consommations, alors c'est vous auriez souhaité vous voir des projets intégrateurs où on pourrait aujourd'hui mettre ses capitaux, mettre cet argent, soutenir, comme le disait Jean de Dieu Milingo tout à l'heure, l'agriculture familiale, ça pourrait être une des solutions, mais on a tendance à avoir cette consommation qui est extravertie. Vous l'avez dit, comment les produits de la SADC aujourd'hui mettent en difficulté les producteurs locaux. Rappelons quand même, quand vous prenez les produits de consommation comme le maïs dans la province du Katanga qui provient plus de la Zambie et d'El Sayer jusqu'à en Afrique du Sud, où on a vu même un moment où le gouvernement avait mobilisé beaucoup de fonds pour pouvoir importer du maïs. Mais vous pensez que les politiques locales, ça peut facilement amener à résoudre cette question du développement de l'agriculture, et comme ça les agriculteurs pourront se retrouver, et la pauvreté, cette pauvreté criante en milieu rural pourrait être combattue. Merci beaucoup, Apollinaire. Jean-Louis, vous êtes à Moné du Tout, au Castel Oriental. Bonjour, Jean-Louis.
Oui, c'est Jean-Clovis, hein?
C'est Jean-Clovis, voilà. Merci d'être avec nous, Jean-Clovis. On vous écoute.
Oui, Pierrot, je vous assure que je doute fort que le secteur agricole se développe tant qu'on n'a pas encore changé la mentalité. Je vous assure, Pierrot, dans la ville de Moné du Tout, depuis qu'on a fait distribuer les tracteurs pour aider les agriculteurs à développer leur secteur, ces tracteurs-là traînent encore jusqu'ici. Alors, je me pose la question de savoir, avec la houe que nous utilisons ici au village pour cultiver, est-ce qu'on peut réussir à développer le secteur agricole? Alors, à quoi servent ces tracteurs-là? On les avait distribués pour faire sécuriser la population ou bien pour aider la population à cultiver? Alors, c'est pour impossible.
Mm-hmm.
Alors, moi, je vous assure que tant qu'on n'a pas encore changé la mentalité, on ne saura pas développer le secteur agricole. Moi, si le gouvernement change de méthode, à ce moment-là, on pourra réussir. À mon avis, je sais que tout repose sur les épaules du gouvernement. Que notre gouvernement prenne en charge toutes ses prérogatives afin d'aider les agriculteurs à bien développer le secteur agricole.
Agricole, merci. Merci beaucoup. Oui, allez-y.
Il y a des intervenants qui sont...
Oui.
Il y a un frère là qui est intervenu là-bas. Là, il a montré bien ce qu'il faut faire pour que le secteur agricole puisse développer. Bon. Avec cette idée-là, je pense qu'on pourra réussir, du moins que le gouvernement prenne les histoires en main.
Voilà. Ça va être considéré, Jean-Louis, comme Jean-Clovis, comme une préoccupation. Merci beaucoup. Mais quand vous avez évoqué cette question des changements de vision, changement de mentalité, vous estimez que si on ne change pas, ça sera très difficile. Rappelons quand même que ces projets, quand le chef de l'État avait effectué cette mission en Inde où ce partenariat a été signé, près de 900 tracteurs ont été rapatriés au pays, distribués en province. On a eu beaucoup d'émissions. Nous sommes rapprochés du temps du docteur Ali Ramazani, quand il était secrétaire général au ministère de l'Agriculture, pour savoir qu'est-ce qu'on a fait des tracteurs. On a eu beaucoup de difficultés aujourd'hui pour avoir des chiffres exacts, qui a pris les tracteurs, ça fait quoi dans quelle province, ça produit quoi ailleurs. Et puis voilà, on est revenu plusieurs années après, on se rend compte que ce projet n'a pas peut-être été bien étudié pour permettre à ce que les tracteurs produisent. Merci beaucoup, Jean-Clovis. Vous avez insisté sur les changements de mentalité. Jean-Denis Mingou, on revient encore à cette question des tracteurs, mais on se rend compte quand même que ça a été une décision qui a été prise, mais cela ne ressortait pas aussi d'un programme, d'une politique bien définie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on se plaigne autant d'années après, on n'a jamais su ce que ces tracteurs ont fait et qu'est-ce que ça a eu comme contribution sur la production agricole dans notre pays. Est-ce que c'est une question aussi d'achat des intrants dès lors qu'il n'y a pas un programme défini d'une manière cohérente, comme vous venez de le dire tout à l'heure aux gens de Dominingo?
Merci, Pierrot. Donc, nous devons dire que même en matière de développement, aucune société à travers le monde ne peut se développer parce qu'elle égorge beaucoup de ressources. Hein. Vous voyez la République démocratique du Congo, nous avons les diamants, nous avons les cuivres, nous avons les coltans, nous avons le pétrole, nous avons la forêt, nous ne nous développons pas. Ce n'est pas parce que vous avez distribué les tracteurs à la population que la production agricole sera où.
Donc, la politique de la mécanisation de l'agriculture liée à la distribution des tracteurs devrait être une composante d'une politique globale du développement. Aujourd'hui, la preuve, c'est qu'on a distribué les tracteurs. D'abord, la première question, à qui a-t-on distribué les tracteurs? Quels sont les objectifs qui ont été assignés à cette politique de la mécanisation de l'agriculture? Aujourd'hui, on se rend compte, comme ils viennent de le dire, on va les tracteurs entre les mains des chefs de collectivités qui vont à l'église. Avec ça, on va les tracteurs dans les parquets des députés et des hommes politiques qui pourtant ne sont pas des agriculteurs. Donc, c'est quelque chose qui ne sort pas d'une réflexion sérieuse, c'est quelque chose qui ne sort pas d'un programme viable. Mmh. Et les résultats. Nous sommes dans ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Si réellement les tracteurs qui ont été distribués, Pierrot, provenaient d'une idée très cohérente, provenaient d'un programme juste, en tout cas pour labourer et semer les maïs, c'est en 3 mois. Ça veut dire qu'on devrait avoir l'impact sur le prix des produits sur le marché. On devrait voir également comment le maïs est en train ou les maniocs sont en train d'inonder le marché. Mais ce n'est pas le cas. Donc Clovis pose un problème de fond. Et ce n'est pas question de mentalité au vrai sens du terme, c'est une question de notre propre vision. Ce que nous voulons devenir demain, ça pose problème sérieusement en République démocratique du Congo. Donc beaucoup de gens ont oublié ce que nous sommes finalement. Les gens pensent. Et quand ils voient un programme, ce que les gens ont fait, par exemple, en Afrique du Sud, ils ont fait par Cambo Industriel, ils pensent qu'ils peuvent ramener cette expérience à la République démocratique du Congo, alors que nous sommes dans un système, nous sommes dans des systèmes économiques et dans des systèmes sociaux très différents.
Oui.
Alors, ça, on est pas déjà des choses. Non, nous avons consulté quelques experts qui sont en Europe, et finalement, ils viennent avec leurs experts, on se rend compte que rien. J'avais mis beaucoup de doutes quant à l'avenir des traités, j'ai mis beaucoup de doutes. Quand elle venait du parc agro-industriel, parce qu'avec le parc, l'État a dépensé plus de 100 millions de dollars. Notre ami Apollinaire vient de parler de 45 millions. Mais pour la mise en place du parc agro-industriel de Sangalo, l'État a dépensé plus de 100 millions de dollars. Mais hier, comme je l'ai dit au début, nous dépensons près de 2 milliards de dollars pour des importations alimentaires par an. Quelle est notre réflexion par rapport à la réduction de ces demandes? Pendant que nous savons que nous ne vendons rien. Comment nous devons avoir 2 milliards pour amener à l'extérieur à ce que
alors avec 100 millions de vision, oui, voilà. Et là, c'est
alors avec 100
vision,
millions, Thierry, je voudrais terminer, avec 100 millions, mm-hmm. nous pouvons mettre en place des projets et en l'espace d'une année, on peut avoir des résultats.
Voilà.
Parce que ce que nous achetons ailleurs, généralement, ce sont des produits d'origine animale, les viandes, les poissons et autres. Mais nous avons des terres où nous pouvons installer des fermes. Avec 100 millions, combien de fermes ont été installées?
Voilà, on va revenir à vous. Le temps d'écouter Bintou et l'ingénieur Mangoyo, cette question, elle est très très importante, la question de la vision, la gestion axée sur les résultats, c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas, le projet tracteur à Bukangalonzo, quels ont été les résultats comme on l'attendait. D'ailleurs, il a été dit qu'on devrait étendre les projets Bukangalonzo, ce genre de projet à travers le pays, c'est pourquoi l'inauguration, tous les gouverneurs étaient venus, mais bon, c'est une question qui pourrait être posée au gouvernement. 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Avant d'écouter Bintou et l'ingénieur Mangoyo, j'irais, c'est Makadi, toutes les questions des priorités. Les jours, les décideurs congolais comprendront que l'agriculture est indispensable au développement de leur pays. L'agriculture sera rassasiée de financement. Alors Bintou, pensez-vous aujourd'hui que malgré tous les discours, tous les programmes, l'agriculture n'est pas encore considérée au niveau de nos décideurs comme une priorité selon cette réflexion des Makas?
Ok, merci beaucoup Pierrot, bonjour à tout le monde, excusez que je présente mes condoléances aux familles éprouvées à Goma qui ont perdu les leurs suite à l'inondation de la dernière pluie.
Mmh.
Bon, pour venir vous répondre maintenant à la question, je ne pense pas que le savez dans ce pays est une des priorités, l'agriculture a toujours été déclarée priorité de priorité, mais
oui, bientôt pourriez-vous vous déplacer tout en intervenant, parce que là on a des petits soucis des lignes entre vous et les studios. Pourriez-vous vous déplacer, mais tout en intervenant bientôt. Oui, dommage, on a perdu bientôt sur la ligne de Kimpese. On retourne ici à Kinshasa. Ingénieur Mangoyo, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez suivi les uns et les autres. Comment alors on peut arriver à considérer vraiment ces secteurs comme une priorité, ingénieur Mangoyo? Bonjour.
Bonjour, M. Pierrot. Merci beaucoup pour l'occasion que vous m'accordez encore d'intervenir sur le don de la radio Capi. Je salue aussi tous les auditeurs de la radio qui suivent maintenant cette émission. Piero, vous savez, la question que je me pose souvent, moi j'ai grandi un peu au village, dans le Bas-Fleuve, pour ceux qui connaissent bien la contrée. Je suis parfois éclairé lorsque je constate que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, arrivent à exporter le cacao, les veillas, et ainsi de suite. Alors moi, quand j'essaie un peu de me référer au passé, ce que moi j'ai vécu à l'époque, il y a 50 ans, il y a des sociétés comme Agriumbe, pour ceux qui connaissent la cité de Lemba dans le Bas-Fleuve, l'Agriumbe, l'Agrifor, APV, tout ça, ce sont des unités, ce sont des sociétés agro-industrielles qui, en fait, Pierrot, avaient une chaîne de fabrication. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à la fabrication de l'huile de palme, de façon industrielle. Et ces produits-là étaient exportés, s'il vous plaît. Vous comprenez? Le cacao, quand vous allez là-bas, mais les plantations sont encore là. Mais la question que je me pose, est-ce qu'au niveau du ministère de l'agriculture, pêche et élevage, est-ce qu'ils ont une vision? Est-ce qu'il y a un programme cohérent, par exemple, qui consiste à faire de ce pays, encore comme il y a longtemps, un pays exportateur de produits agricoles? Parce que, est-ce que ces unités de production-là, est-ce qu'on ne peut pas les relancer moyennant une politique cohérente? Je sais qu'à un moment donné, on a aérialisé, on a rétrocédé, mais est-ce que vraiment on ne peut pas penser, parce que ces plantations existent encore, Piero, existent. Moi, j'étais encore enfant, j'ai vu mon père, moi, enfant, j'étais là. Nous, on coupait les bananes. Ces bananes-là étaient mises dans notre véhicule. On venait vendre ça et on prenait ces bananes-là qui arrivaient jusqu'au port de Matadi. Et là-bas, au port de Matadi, ça allait au Saya et puis ces bananes étaient exportées. Mais pourquoi on ne peut pas le faire maintenant? Pourquoi on ne peut plus encore le faire, Piero?
Rappelons quand même parce que vous avez évoqué
quelque chose. Nous manquons des repères, Piero. Je vais terminer par nous manquons des repères. Parce que comment voulez-vous un dirigeant qui est de la génération Chéchard, un dirigeant qui est de la génération, c'est pas moi, Thompson, est-ce qu'il peut penser que les poissons que nous pêchons dans nos lacs ici, dans nos fleuves ici, ces poissons-là peuvent nourrir tout le monde?
Mais rappelons quand même, ingénieur Mangoyo, même s'il y a des dirigeants de la génération Chéchard et Thompson, et rappelons quand même qu'aujourd'hui, au ciel des institutions, il y a aussi les dirigeants de la génération PELZ, de la génération Agri Mayumbe, mais malheureusement, autour
non, ils ne sont pas nombreux, Pierrot.
Merci beaucoup,
ingénieur Mangoyo. Je pense que le jour où on aura à la tête de ce pays un repère, un vieux qui fait que ces unités-là, on peut les relancer. Vous verrez, Pierrot, ils
merci,
sont là.
Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo. Rappelons quand même de l'émission Capi Service et Paroles aux auditeurs, et voire même Zigzag qui ont été produits dernièrement à Béni. On a évoqué aussi la relance des cacao à Béni. C'est passé sur les antennes de Radio Capi, un cacao de meilleure qualité. Merci en tout cas. Mais vous estimez qu'aujourd'hui, il faut qu'on ressuscite quand même cette nostalgie qui peut pousser les uns et les autres à pouvoir investir dans les secteurs de l'agriculture. Merci, vous avez été nombreux. Dommage pour Bintou. La ligne ne nous a pas permis d'aller plus loin. On revient à vous, Jean des Dieux Miningou, pour conclure cet échange. Vous avez suivi les uns et les autres. Les repères existent quand même. Il faut quand même les dire que les Congos ont occupé une certaine place sur le plan de l'agriculture. C'est connu, tout cela. Mais aujourd'hui, quand on essaie de remonter, on essaie de finir les politiques, apparemment, on oublie ce qui s'est fait déjà dans le passé. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir pour la fin de cet échange, Jean des Dieux Miningou?
Merci. Pour être constructif par rapport à l'émission, je voudrais dire aux uns et aux autres que les bases pour le développement de l'agriculture en République démocratique et les potentialités sont très énormes. Nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres. Nous avons autour de 90 millions d'hectares et de salissages dégradés qui pouvaient recevoir autour de 40 millions d'hectares de bovins. Nous avons autour de 4 millions d'hectares de terres qui peuvent utiliser, nous pouvons faire les cultures. Donc les potentialités existent. Mais ce qui pose problème, comme je l'ai dit, on ne se développe pas parce qu'on a des ressources, mais on se développe lorsqu'on sait ce qu'on veut devenir. Donc, il faut être courageux pour dire que nous avons un problème de vision de ce que nous pouvons être demain et ce que nous serons demain. Donc, tant que nous ne mettrons jamais en place de bonnes politiques agricoles pour le développement de l'agriculture en République démocratique du Congo, Pierrot, toutes ces potentialités ne serviront à rien.
Donc quand je parle de potentiel, nous voulons parler que la loi qui a été mise en place doit être respectée. Nous avons des programmes qui ne doivent pas rester statiques, mais des programmes qui doivent être dynamiques. Merci. Nous avons des projets qui doivent avoir un impact direct sur la vie des communautés. Parce que le monde moderne dans lequel nous vivons, c'est un monde qui a besoin de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles manières de faire le journalisme. C'est un monde qui a besoin de nouvelles stratégies. C'est un monde qui a besoin de nouveaux produits, de nouvelles méthodes de recherche et d'enseignement. Donc, tant que nous n'aurons jamais une véritable politique sur le développement de l'agriculture, c'est tout ce que nous sommes en train de dire. Mais l'avènement d'un état de roi, c'est la clé de base de tout. Tant que la justice ne fonctionne pas bien, vous verrez que les hommes politiques vont aller prendre de l'argent au niveau des FCI, ils vont aller prendre de l'argent au niveau du Fonds national du développement agricole. Tant que la justice.
Merci beaucoup, Jean-Jean. Merci beaucoup Jean de Dieu-Milingo. Meilleurs voeux à vous, hein. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les auditeurs, vous avez été nombreux à commenter ce sujet, mais les débats c'est pour ceux sur les réseaux sociaux.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Merci à toute l'équipe qui nous aide à produire ces magazines. Paul Benyama ici à la mise en onde des Jérôme Guémo, à la réalisation et la coordination. Julie Pézard a été avec vous au standard et sur les réseaux sociaux. Pierrot et la musique vous la présenter sous la supervision de Martin Sebujangwe. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir.